Bonjour, on va continuer donc après la conférence sur la 3D, on va poursuivre sur les problématiques de sécurité avec François Le Cellier du même laboratoire, donc Xlim de l'Université de Poitiers. Je te laisse la parole et puis après à la fin je reviendrai sur le restant du programme du forum.
Très bien, merci. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de sécurité informatique, différents exemples, différentes applications qui sont des problématiques assez importantes au sein du laboratoire Xlim. Je vais revenir aussi sur le laboratoire. Cette conférence, moi, je vais la commencer. Elle sera poursuivie par Rodolphe Vauzel, qui est professeur des universités et qui devrait arriver dans quelques instants. Il était retardé par un enseignement. Juste pour rappel, le laboratoire Xlim, c'est un institut de recherche qui est rattaché au CNRS et aux universités de Limoges et de Poitiers. L'institut Xlim comporte 430 personnes, donc 190 chercheurs et enseignants-chercheurs, 40 ingénieurs et personnels d'assistance à la recherche, et 200 doctorants et postdoctorants. Le laboratoire travaille dans le domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication, donc tout ce qui va être de l'informatique, mais également d'autres thèmes. Des termes autour de l'électronique et des hyperfréquences, de la photonique, donc tout ce qui va être étude de la lumière, des mathématiques, de l'informatique et du traitement d'images. À Poitiers, nous sommes à environ 90 personnes réparties dans trois équipes, l'équipe réseau et système intelligent, l'équipe informatique graphique, dont Hakim Ferrier, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, était membre, et l'équipe images, couleurs, mouvements, relief et surface, dont je suis membre. Le laboratoire Xlim a un lien très important avec la sécurité, puisque le laboratoire est considéré comme laboratoire d'excellence, a été labellisé laboratoire d'excellence en 2010 par le ministère de la Recherche. Autour des matériaux et des procédés céramiques, des composants circuits électroniques et optiques intégrés, des fonctions et des systèmes sécurisés, c'est là qu'on voit que la sécurité a un grand impact à Xlim et de la modélisation, en particulier dans le terme de la sécurité des biens, des lieux et des personnes. Il y a également des domaines d'application en santé, en médecine et dans le cadre de l'énergie. Moi, je vais vous parler plus précisément de la sécurité des biens, des lieux et des personnes sous la forme de trois exemples d'applications. Le premier exemple, ça s'articule autour de la sécurité du document numérique. Lorsque l'on a un document numérique, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est de s'assurer de la paternité d'un document, s'assurer que le document qu'on a reçu provient bien de notre expéditeur et pas de quelqu'un qui veut se faire passer pour cette personne. Également, s'assurer de la fiabilité d'un document. Est-ce que le document a été modifié ou non? On voit ici, sur cette image, que le document, la photo, a été modifiée. On s'en rend compte aussitôt puisque la modification est grossière et c'est un effet qui est fait pour que on voit la modification. Quand on regarde cette image à côté, on voit que sur cette image, on peut avoir la possibilité d'afficher un copyright, mais on peut aussi cacher le copyright. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Cacher un copyright, c'est ce qu'on appelle du tatouage numérique. C'est ajouter un motif sur une image afin d'en assurer la paternité. Ce motif peut être visible, c'est le marquage qu'on a l'habitude de voir sur les images qui sont protégées, avec un gros copyright écrit dessus. Ou alors, un marquage peut être invisible, et dans ce cas-là, il faut utiliser un logiciel spécifique pour pouvoir l'afficher et pour pouvoir prouver la paternité d'un document. L'intérêt d'un marquage invisible, c'est que l'image est protégée, on sait qu'elle est sous copyright, et on peut toujours retrouver la marque, quelles que soient les modifications qui sont faites sur les images. Pour cela, je vais vous montrer une petite démonstration. Vous voyez sur cette image qu'il y a un copyright qui est affiché de manière visible. Le copyright prend à peu près toute la taille de l'écran. Il est très visible, mais quelqu'un qui va pouvoir retravailler l'image avec des logiciels de traitement d'image comme ceux que l'on développe par exemple au laboratoire ou ceux qui sont disponibles pour le grand public, va pouvoir supprimer ce copyright. Ce copyright, une fois qu'il a été supprimé, on ne peut pas voir que l'image a été protégée. Il y a toujours un petit copyright qui est écrit en bas, ici, sur l'image. Ce copyright-là, il n'y a même pas forcément besoin de le supprimer. On peut juste recadrer l'image et le copyright va disparaître. On peut considérer que ce copyright peut être également supprimé par des techniques de traitement d'image. Comment, en ce cas-là, s'assurer de la paternité de cette image-là? cette image peut être publiée sur Internet et n'importe qui ensuite pourra la récupérer. Mais également, quelqu'un pourrait créer une image ou un faux document, le transmettre par Internet et ensuite on reçoit ce document, on voit que ce document, on n'a aucun moyen de s'assurer que le document provient bien de notre expéditeur. Si on parlait de documents totalement sécurisés, on pense par exemple aux déclarations d'impôts, c'est aussi bien que les déclarations d'impôts, si elles étaient transmises directement par mail, on puisse savoir qu'elles proviennent bien des impôts. Donc pour ça, on peut utiliser le tatouage et le marquage numérique. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image, on va la transformer avec un système spécifique de traitement d'image. On va faire une petite modification sur chacun des pixels de l'image. Cette modification, elle est totalement invisible, totalement impossible à percevoir par l'œil humain. Par contre, ce qui est important, c'est que l'ordinateur, lui, va pouvoir voir que cette modification a été faite. Et donc, quand on va retravailler l'image et qu'on va demander à l'ordinateur d'afficher le marquage invisible, on voit que le copyright apparaît sur l'image. Donc vous voyez ici, le copyright est apparu sur l'image, il est dans les quatre coins de l'image, on voit un copyright. Alors, ici, juste là, il y a le texte dans les quatre coins de l'image. Ce copyright est ce qu'on a fait, ce qui s'appelle en informatique ou en mathématiques une transformée de Fourier, c'est une opération mathématique. Et cette opération mathématique va faire des petites modifications dans les endroits où ça ne se voit pas dans l'image. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, si on sait que les modifications sont faites sur les quatre coins de l'image, la seule chose qu'on a à faire, c'est de prendre l'image et ensuite de diminuer sa taille. Donc j'ai mon image, je vais réduire tout simplement sa taille en diminuant sa hauteur, puisque c'est dans les quatre coins. Donc j'ai diminué la taille de mon image. Mon image ayant sa taille diminuée, normalement le copyright a disparu puisqu'il était sur les quatre coins de l'image. La transformation, comme je vous l'ai expliqué, elle est faite sur tous les pixels de l'image. C'est simplement la visualisation qui l'affiche sur les quatre coins. Donc cette transformation faite sur les quatre coins, si je réapplique la même chose que tout à l'heure, on voit que le copyright est resté. Donc il n'y a aucun moyen de supprimer le copyright de cette image tant que l'image est reconnaissable. Bien entendu, si vous modifiez totalement pour qu'on ne reconnaisse plus du tout ce qu'il y a dessus, on ne retrouvera pas le copyright. Ça, c'est une démonstration que je vous ai faite avec le logiciel, un logiciel qui s'appelle GIMP. Alors, je vais juste ne pas enregistrer de modification. Ce logiciel s'appelle GIMP et à ce logiciel, j'ai ajouté un plugin qui est totalement gratuit, qui s'appelle Gemic. Donc c'est quelque chose que vous pouvez télécharger. Vous pouvez ensuite l'utiliser directement chez vous. GIMP plus Gemic fonctionne sur n'importe quel ordinateur. Et vous pouvez ajouter comme cela un copyright invisible, qui s'appelle un tatouage, en anglais watermark, sur votre image. Alors, ce procédé va fonctionner tant que l'image restera sur Internet. Ce qui va se passer parfois, c'est qu'un pirate va vouloir prendre une image sur Internet, va l'imprimer, va faire une petite modification, et ensuite va la rescanner. Cela, dans ce cas-là, le plugin GIMP plus Gemic ne va pas fonctionner. Ce qu'on a développé au laboratoire, c'est un démonstrateur qui a été breveté sur la sécurité du document numérique. Et ce démonstrateur breveté montre que l'on peut protéger une image, même si elle est scannée, imprimée, puis rescannée. Donc on va pouvoir protéger l'image et toujours retrouver cette marque invisible dans l'image, quelles que soient les modifications qui sont faites. Le démonstrateur étant breveté, je ne peux pas vous le montrer, il est utilisé par certaines sociétés, je ne peux pas vous faire une démonstration en temps réel, mais ça fonctionne un petit peu de la même manière que ce que je viens de vous montrer pour GIMP et Gemic. Alors là, je vous ai expliqué comment vérifier la paternité d'une image. Donc, l'image peut être récupérée, on sait que l'image est la propriété d'un utilisateur. Maintenant, comment vérifier que l'image est réelle ou que l'image n'a pas été falsifiée? Donc pour vérifier la fiabilité d'une image, si je prends cette image-là, par exemple, qu'est-ce qui est réel sur cette image, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour me dire que le visage de la jeune femme a été ajouté. Ça se voit, c'est relativement clair. Ou alors, elle est particulièrement musclée au niveau des jambes. Donc là, on est tous d'accord de dire que le visage de la jeune femme a été ajouté. Mais il y a des modifications, peut-être faites sur cette image, qui sont encore différentes et qui sont plus compliquées à détecter. Ce qu'on va regarder, pour vérifier tout cela, on va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, on va regarder la direction de la lumière. La lumière va se réfléchir sur n'importe quel objet dans la scène. Et le fait que la lumière se réfléchisse sur ces objets va créer des ombres, mais va aussi créer des zones de réflexion. Et ces zones de réflexion, on peut les utiliser et les étudier. Donc en étudiant la manière dont se reflète la lumière dans la scène, on va pouvoir avoir une idée de la direction de la lumière au moment où l'image a été prise. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Tout simplement, si quelqu'un a modifié l'image, on va avoir une direction de lumière sur une des images et une autre direction sur une partie de l'image. On va donc savoir que cette partie de l'image a été ajoutée. On va aussi pouvoir analyser la direction et la position du regard. Le regard va nous permettre d'analyser l'iris. La position de l'iris va nous permettre de savoir dans quelle direction la personne prise en photo regardait, mais également les reflets spéculaires sur l'œil. Donc la lumière va donner un petit reflet, un petit effet brillant au niveau de l'œil. On le voit très bien quand on met le flash et qu'on a un effet d'œil rouge. C'est la lumière qui a interagi avec l'œil. Donc là, grâce à cet effet spéculaire, on va pouvoir aussi connaître la direction du regard et la direction de la lumière qui éclairait ce regard. Donc on va aussi pouvoir savoir si quelqu'un a été ajouté sur la photo. On va aussi pouvoir vérifier s'il n'y a pas eu du clonage, donc en copiant directement une partie de l'image, en l'ajoutant quelque part. Donc là, on va faire de la comparaison de petits blocs dans l'image pour vérifier que ces blocs ne sont pas identiques. Et enfin, chaque caméra a une empreinte comme une empreinte digitale. Ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et cette spécificité dans le traitement des images brutes que va recueillir la caméra et recueillir le capteur de la caméra est spécifique à toutes les caméras. Donc si on prend une photo avec un appareil photo et qu'on ajoute un morceau de photo qui a été prise avec un autre appareil photo, eh bien, elles n'auront pas la même empreinte de caméra. Donc, on pourra savoir qu'il y a eu un trucage sur cette image. Si je vous présente un exemple de direction de lumière, si on prend cette image, on se rend compte ici et là que la lumière ne va pas dans la même direction. C'est un algorithme de traitement d'image qu'on a développé qui permet d'analyser ça. On va donc analyser pour vérifier que la lumière ne va pas dans la même direction. On va donc pouvoir dire que l'image a été modifiée. Il faudrait faire une analyse complète sur l'image afin de pouvoir savoir ce qui a été réellement ajouté. Est-ce que ce sont les oies, les canards, ou est-ce que ce sont les policiers? Donc ça, c'est une analyse complète de l'image, de toutes les sources lumineuses présentes sur l'image qui vont nous permettre de le savoir. Si on prend l'exemple de la position et de la direction du regard, c'est un petit peu différent. Là, on va prendre cette image ici, et on va regarder, cette image, c'est en fait une photo qui a été faite pour une version anglaise d'un télécrochet, c'était American Idol. Et c'était l'image de promotion, vraiment, de la série. Donc tout le monde s'est dit que les quatre jurés étaient en même temps et avaient été pris en photo en même temps. En fait, pas du tout. Si on regarde la direction de leur regard, on se rend compte qu'en regardant les différents reflets spéculaires, donc là on les voit bien, ici les petits reflets blancs sur l'œil, on voit que les reflets spéculaires ne sont pas identiques sur les quatre pupilles. Et donc on voit que les quatre personnes regarde dans trois directions différentes et donc était éclairé par trois sources lumineuses différentes également. Ce qui nous a donné la conclusion que cette image n'a pas été faite en une fois, mais avec trois photos différentes au minimum. Je pense que personne n'aurait pu dire sur cette image au départ qu'elle avait été modifiée. Enfin, si on travaille sur le clonage, ben, ça c'est une photo qui a été diffusée lors de la campagne américaine. Alors, je ne sais plus de quelle personne, je ne sais plus quel était le candidat, mais c'est une photo qui a été bien diffusée et tout le monde a dit « Oh, il y avait du monde à ce défilé ». En fait, pas du tout. On regarde ici, vous voyez que les blocs ici qui étaient comparés, donc là, je vous montre l'exemple sur le drapeau américain, parce que c'est plus facile à voir, Mais on voit ici que les blocs qui ont été comparés montrent que les zones en bleu, en rouge et en vert sont strictement identiques. Donc la personne qui a modifié cette image-là a repris un bout de manifestation et l'a recollé ailleurs, etc. Donc si ça a été fait sur quelques zones de l'image, ça a peut-être été fait à d'autres endroits de manière un petit peu plus cohérente. Enfin, si je vous parle d'empreinte de caméra, l'empreinte de caméra, c'est ça. Le capteur de la caméra va capter les pixels rouges, verts et bleus et va les enregistrer sur son capteur. Ensuite, c'est un algorithme qui va permettre, en gros, d'ajouter des pixels là où il n'y avait pas de pixels sur le capteur. Donc, le capteur ici avait 4 pixels rouges et on voulait des informations des pixels rouges à d'autres endroits. Donc, on a considéré que entre 38 et 42, les valeurs des pixels rouges, on allait mettre un 40 pour faire quelque chose à peu près lisse, etc., etc. Comme il y a énormément de pixels sur l'image, on se rend compte qu'il n'y a aucun problème pour réussir à avoir une empreinte spécifique de caméra, puisque chaque caméra va avoir son propre système de traitement. À partir de tout cela, on peut regarder l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec les deux cyclistes. Effectivement, le visage de la personne, la direction de la lumière est différente sur le visage de la personne. Mais on s'est également rendu compte que la direction de la lumière était différente sur la borne d'incendie. La borne d'incendie a donc été ajoutée. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas la personne qui a truqué l'image, mais je sais que la borne d'incendie a été ajoutée. Grâce à l'empreinte de caméra, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des pixels de modifiés ici sur le short et ici sur le maillot, certainement pour supprimer la marque ou le nom du coureur. On se rend compte également, en étudiant les blocs de pixels, qu'il y a eu directement des recopies de pixels entre les deux casques. Donc les deux casques sont strictement identiques, la seule chose qui a été faite derrière, c'est une modification. Donc on se rend compte ici que ce qui nous paraissait directement visible, à savoir que le visage de la jeune femme avait été ajouté, en fait, il y a eu beaucoup plus de modifications que ça sur cette image. Et je pense qu'on prend beaucoup d'images dans des magazines ou sur Internet. Il y a eu des modifications de fait dessus. Il faudrait les analyser pour savoir exactement où elles se situaient. Je ne vous dis pas qu'on va pouvoir retrouver l'image d'origine. Je vous dis simplement qu'on peut détecter où sont faites les modifications en analysant les images. Donc, pour résumer, sur la protection des documents, ce que je vous ai présenté, c'était la manière d'ajouter un marquage invisible résistant à toutes les transformations possibles sur les images. Donc les petites transformations là que j'ai faites, le marquage va rester visible. On va pouvoir retrouver le marquage, malgré toutes les petites transformations qui ont été faites sur les images. Par contre, je vous ai aussi montré qu'on avait la possibilité de vérifier s'il n'y avait pas eu un changement de visage sur une image, du clonage, des ajouts d'objets ou de personnes. Donc tout ça, c'est des modifications qui nous permettent de protéger les documents. Donc, un document numérique, on va pouvoir certifier son authenticité à partir du marquage qu'on va pouvoir réafficher et à partir d'analyses de traitement d'image qui vont nous permettre de dire il n'y a pas eu de modification réellement établie sur cette image-là. Donc là, je vous ai présenté rapidement des choses en protection des documents. Je vais maintenant vous parler de vidéosurveillance. C'est vraiment un thème à la mode en ce moment. On parle beaucoup d'analyse des images vidéo. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur la vidéosurveillance? On va vouloir pouvoir aider les personnes à reconnaître des actions qui sont potentiellement des actions à risque. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un aéroport? Dans un aéroport, il y a un nombre très important de caméras. On va avoir un PC de sécurité dans lequel toutes les images de ces caméras sont diffusées en permanence. À moins qu'il y ait un agent de sécurité par caméra, et même avec cette condition-là, je pense qu'il en faudrait même deux parfois, il est strictement impossible de demander aux agents de sécurité de voir tout ce qui se passe dans l'aéroport. Il y a trop de caméras, trop d'informations en même temps. Donc pour cela, ce qu'on va proposer, nous, au laboratoire, c'est de faire tout d'abord une identification des personnes, donc savoir là où se situent les personnes sur l'image de vidéosurveillance, ensuite un suivi de ces personnes pour connaître leur trajet global dans le champ de la caméra, mais également en dehors du champ de la caméra, quand on a plusieurs caméras qui filment le même lieu. Et enfin, détecter les objets et reconnaître les actions. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement détecter les zones en mouvement. Si on est sur une caméra de vidéosurveillance, la caméra est en général immobile. donc où on connaît le mouvement de la caméra. Donc on va pouvoir identifier les zones en mouvement. Ensuite, on va modéliser ces mouvements en obtenant des caractéristiques mathématiques spécifiques à ces mouvements et les analyser en comparant les caractéristiques mathématiques de ces mouvements aux caractéristiques mathématiques qu'on aura apprises à l'ordinateur. À partir de tout ça, on va pouvoir reconnaître des actions. Donc, comment faire pour détecter des mouvements ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode qui permet de calculer une différence entre deux images. Effectivement, si je prends des photos les unes à la suite des autres, on va se rendre compte que quand il y a un mouvement, seules les parties en mouvement vont avoir eu un déplacement. Donc si on fait une différence entre une image à un instant et l'image à l'instant suivant, les seules différences entre les deux images doivent être les endroits qui ont été en mouvement. On peut aussi détecter ce qui s'appelle des points d'intérêt. Les points d'intérêt vont se situer, par exemple, au niveau des mains, au niveau des doigts. Ils vont se situer au niveau des visages. Ils vont se situer sur tous les endroits qui vont avoir un contraste important. Si on regarde dans cette pièce, il pourra y avoir des points d'intérêt au niveau, ici, de la fiche sur l'extension du numérique, au niveau de la photo, au niveau de tout ce qu'il y a dans cette pièce, on va pouvoir détecter des points d'intérêt. Et ces points d'intérêt, on va pouvoir les suivre au fil du temps. Tout cela va pouvoir nous donner des caractéristiques mathématiques, donc dans le premier cas, des zones de mouvement, dans le deuxième cas, des trajectoires de points. La différence entre images, c'est tout simple. C'est quelque chose qui est inspiré du travail d'Édouard Jules Marais. Édouard Jules Marais, c'était un photographe dans les années 1910, je crois, qui faisait des photos et qui faisait de la chronophotographie. Donc, il faisait une suite de photos pour étudier le mouvement humain. Il l'a fait sur le mouvement humain, il l'a fait également sur des mouvements animaux. Donc, comme ça, il a décomposé ici le mouvement d'un sauteur à la perche. Donc, il a fait une suite de photos. Et donc, la différence entre images, exactement ce qu'on fait, nous, c'est inspiré de ce travail-là. Donc, on va regarder les différences entre différentes images et réussir à voir comment c'est comporter le mouvement. Les points d'intérêt, c'est comme je l'ai dit. C'est au niveau des coins des yeux, de la bouche, de l'extrémité des doigts, des contours du corps, les bords des meubles. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les points en mouvement. J'ai une magnifique webcam sur mon ordinateur. Et si vous regardez la webcam sur mon ordinateur, ben j'ai tout simplement un programme qui permet de les détecter, ces points d'intérêt. Donc voici les points d'intérêt qui sont détectés sur mon visage. Et vous voyez que les points suivent mon visage lorsque je bouge. On peut, une fois qu'on a obtenu ça, réussir à récupérer ensuite les trajectoires de ces points. Et donc on va pouvoir analyser la trajectoire de tous ces points et ensuite obtenir tout ce qui nous intéresse pour obtenir nos caractéristiques mathématiques. Si je travaille sur ces points en mouvement, voilà ce que ça peut donner sur une vidéo. Si je reprenais. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu ancienne, donc elle est de très mauvaise qualité au début, ça s'améliore après. Donc là, c'est la partie où la vidéo est de très mauvaise qualité. Là, je vais vous proposer d'essayer de trouver ce qui se passe dans cette vidéo. Normalement, à partir de maintenant, vous devriez pouvoir y arriver. Effectivement, il y a un mouvement comme ça. Là, vous voyez, tous les points sont passés d'un côté, puis tous de l'autre. C'était un changement de plan. Là, je pense qu'il y a une deuxième action que vous devriez beaucoup plus facilement reconnaître. Le fer à repasser. Voilà. Donc, cette partie fer à repasser, cette partie avec le fer à repasser, en fait, je vais vous montrer la vidéo telle qu'elle est, je vais essayer de la faire avancer un petit peu. Plus. C'est une ancienne publicité qui est pour de l'amidon. Donc effectivement, tout d'abord, il faut présenter comment faire l'amidon, donc comment mélanger avec ce mouvement de rotation que vous avez vu tout à l'heure. Donc on voit la personne qui va mélanger son amidon. Le changement de plan dont je vous ai parlé, il arrive à peu près maintenant. Avec tous les points qui partent d'un côté, on voit bien que le plan part d'un côté, puis tous les points qui partent de l'autre. Ce mouvement avec la cuillère, on le voyait aussi avec les points, si on regardait bien. Et ensuite, le mouvement avec le fer à repasser. Donc, vous avez des yeux aussi performants que l'ordinateur, sauf que l'ordinateur, lui, il va détecter les points, mais il ne va pas savoir identifier le mouvement. Donc, il va falloir extraire des données mathématiques qui nous permettent de les caractériser. Pour cela, on va avoir sur les zones en mouvement la taille de la zone, l'orientation générale du mouvement, l'amplitude, la vitesse. Sur les trajectoires de points d'intérêt, on va voir les trajectoires, donc pouvoir suivre ces points au fil du temps, comme je vous l'ai montré. À partir de ça, on va obtenir des équations mathématiques qui vont nous permettre d'analyser les mouvements. Pour cela, on va simplement comparer les différentes équations, donc l'équation de deux trajectoires, pour savoir si les trajectoires des mouvements sont proches. Ensuite, on va pouvoir tracer des courbes sur des éléments concrets, l'amplitude, la direction, la vitesse du mouvement. Et à partir de cela, on va pouvoir faire de l'apprentissage. Le mécanisme d'apprentissage en informatique, il existe deux solutions principales d'apprentissage. Un apprentissage qui va être non supervisé, c'est-à-dire sans aucune intervention de l'utilisateur. On va donner un exemple simplement à l'ordinateur et l'ordinateur va chercher tout ce qui se rapproche le plus possible de cet exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. L'ordinateur va simplement chercher ce qui se rapproche de l'exemple. Donc c'est un petit peu ce qui se passe, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais maintenant avec Google Images, on peut chercher des images à partir d'autres images. On peut le faire dans Google. Donc vous allez dans Google, vous allez sur Google Images et vous lancez la recherche à partir d'images. Ça marche bien si l'image provient de Google, ou plutôt est trouvable sur Google. Si l'image n'est pas trouvable sur Google, si je prenais, on va dire, cette salle en photo et que je demandais à Google de me retrouver cette salle, si cette salle avec cette configuration-là n'est pas sur Google, il sera strictement impossible de la retrouver. Il va retrouver des choses qui ne seront pas forcément bonnes. Autant vous dire que on fait beaucoup mieux maintenant. Mais ce que veut Google, c'est que ça aille très vite et que ça ait énormément d'images. Donc c'est vrai que quand on travaille sur plusieurs milliards d'images, on peut accepter un léger taux d'erreur. Donc ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Je vais vous montrer un exemple en vidéo tout de suite. Dans le cadre de l'apprentissage supervisé, là, il va falloir faire vraiment donner des exemples à l'ordinateur. Donc montrer à l'ordinateur ce que c'est, par exemple, qu'une personne qui se lève, une personne qui s'assoit, une personne qui ouvre une porte, une personne qui marche. Donc là, il va falloir lui donner beaucoup d'exemples de tout ce qui existe comme gestes et comme mouvements que l'on veut détecter. Et ensuite, on va donner toutes ces connaissances à l'ordinateur, écrire un programme informatique qui va lui permettre de comparer les nouvelles caractéristiques, donc les nouvelles équations mathématiques que l'on a obtenues, aux équations mathématiques de quelqu'un qui marche, quelqu'un qui s'assoit, quelqu'un qui se lève, etc. Et à partir de ça, l'ordinateur va pouvoir détecter, reconnaître des mouvements. Donc si je vous montre ici un exemple d'apprentissage non supervisé, j'ai donné cette image, donc cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'un film où on voit un papa et sa fille qui font de la balançoire. Et au cours de ce film, il y a plusieurs épisodes qui sont un petit peu des flashbacks où le papa se souvient d'avoir fait de la balançoire avec sa fille. Mais ce n'est pas les mêmes scènes tout à fait. Mais c'est toujours un mouvement de balançoire. Et ici, j'ai extrait d'un film d'une heure et demie les quatre parties de 10 secondes qui contiennent le plus de mouvements de balançoire, de manière totalement automatique. Je ne me suis pas amusé à regarder le film pendant une heure et demie et toutes les 10 secondes dire « Ah, ça y est, la balançoire commence ». J'ai demandé à l'ordinateur de le faire, c'était beaucoup plus facile. Quand on parle d'actions supervisées, on va pouvoir extraire des actions prédéfinies. Les actions prédéfinies qu'on nous demande le plus souvent, ça va être se lever, s'asseoir, ça va être se rencontrer, se séparer, ça va être pointer quelque chose du doigt, se serrer la main, s'embrasser, déposer un objet, ramasser un objet. Je pense que les objets, c'est quelque chose d'important en ce moment. Marcher, courir, c'est pas du tout la même action. On nous demande aussi des choses parfois un petit peu plus complexes ou étranges. Des gens qui appellent l'ascenseur, qui appuient sur le bouton de l'ascenseur, mais qui ne prennent pas l'ascenseur. C'est une action qui est dans un challenge annuel et international de vidéo. Cette action, je n'ai jamais compris pourquoi elle était là, mais elle existe. C'est, je pense, pour vérifier qu'on peut apprendre des actions plus complexes que des actions aussi simples que celles que je vous présente ici. À partir de ça, On va pouvoir identifier des actions qui sont potentiellement à risque. Comment on va savoir si une action est potentiellement à risque? On ne sait pas directement par une action. Ce n'est pas parce que je prends un objet ou que je pose un objet que cette action est une action à risque. C'est la suite d'actions qui va faire que cette action est à risque. Si je prends deux scénarios exemples, le premier scénario, comme point de départ, c'est des gens qui marchent et qui se rencontrent. Ces gens, ensuite, ces personnes se serrent la main et une des personnes, pour pouvoir serrer la main, va poser l'objet qu'il tenait en main. Ils vont continuer à marcher, ils vont marcher et se séparer. Vous remarquerez ici que l'objet n'a pas été ramassé, il a juste été déposé. Dans ce cas-là, on peut arriver à la conclusion que l'objet a été oublié. Deuxième action, une personne seule marche, dépose un objet et repart en courant. Dans ce cas-là, l'objet n'a pas été oublié, il a été déposé là volontairement. Et si la personne repart en courant, il vaut mieux peut-être s'en méfier. C'est deux actions différentes qui ont pourtant des conséquences totalement différentes. Je vais vous montrer sur un exemple de vidéo ce que ça peut donner de l'apprentissage supervisé. Donc on voit ici que la personne marche, appelle l'ascenseur, entre dans l'ascenseur. Deux personnes qui marchent, se serrent la main et se séparent. Vous voyez que toutes les actions, la personne est reconnue par l'ordinateur, on met un cadre autour de cette personne, et les actions sont reconnues aussi. Vous reconnaîtrez la une à Saint-Benoît, pour ceux qui connaissent. Donc toutes les actions ici sont reconnues automatiquement par l'ordinateur qui va permettre de voir si, par exemple, une personne marche, une personne s'assoit, une personne se relève, etc. Si deux personnes se rencontrent. Donc toutes les actions qu'on va chercher à reconnaître ici, ce sont des actions qu'on nous a déjà demandé de reconnaître. Donc ces vidéos, c'est des vidéos qu'on a fait nous-mêmes avec des actions qui se voient bien. Premièrement, pour que les vidéos soient libres de droit, qu'on ait le droit de les utiliser, les images de vidéosurveillance, j'en ai déjà vu, je n'ai pas le droit de vous les présenter, mais et également pour que toutes les actions, on se rende compte assez rapidement de ce qu'on va pouvoir faire comme démonstration, au niveau de la reconnaissance d'action. Donc vous voyez ici deux personnes qui se rencontrent, l'objet est un peu lourd, la personne le dépose, et ensuite les personnes vont se séparer. L'objet ici a été oublié. On peut du moins arriver à cette conclusion. En attendant, au moins on a détecté qu'il y avait un objet sur le sol. Comme je vous le dis, ce sont des vidéos qu'on a fait exprès. Bien entendu, on pense que les gens ne vont pas aller aussi facilement marcher, déposer l'objet et repartir aussitôt. En général, ce n'est pas les cas qu'on voit dans des images de vidéosurveillance, ça va être des cas un petit peu plus particuliers. Mais ici, encore une fois, l'objet a été déposé et est toujours identifié sur la vidéo, même s'il n'est pas en mouvement. Donc on va pouvoir demander à quelqu'un d'aller voir ce que c'est que cet objet. La vidéosurveillance, c'est une technique qui est entre le supervisé et le non-supervisé. C'est du semi-supervisé, donc à moitié supervisé. On ne veut pas que l'ordinateur détecte tout. L'ordinateur ne va pas pouvoir détecter toutes les actions, ne va pas pouvoir tout reconnaître. Par contre, il va peut-être parfois pouvoir identifier des actions qui sont potentiellement à risque et mettre cette image-là comme image de référence pour demander à l'humain de prendre la décision. Si je reprends l'exemple de l'aéroport où j'ai un mur de caméra parce que j'ai eu un mur d'images avec sur chaque écran 4, 6, 8 images des caméras qui sont dans l'aéroport, on va peut-être avoir un écran de contrôle où la personne qui est chargée du PC sécurité va avoir en temps réel toutes les images et toutes les vidéos issues des lieux qu'il considère qui sont potentiellement à risque. Et ensuite, c'est cette personne-là qui prendra la décision en fonction de ce qu'on aura détecté. Donc, encore une fois, dans le cadre de la vidéosurveillance, il va falloir utiliser et demander à l'humain d'agir et d'analyser la vidéo. L'ordinateur, dans l'état actuel des connaissances, ne peut pas faire un diagnostic de la vidéo directe. C'est un petit peu la même chose en imagerie médicale. On ne laisse pas l'ordinateur faire le diagnostic à la place du médecin. Là, on ne laisse pas l'ordinateur faire le diagnostic à la place de l'officier de sécurité. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue qui est arrivé et qui va vous parler de sécurité des transmissions sans fil. Oui. Alors, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas encore de législation spécifique sur les modifications des images. On sait que les images peuvent être modifiées, mais par contre, connaître, avoir quelque chose qui autorise ou non à les modifier, ça dépend vraiment du copyright qui a été appliqué sur l'image. Considérez, quand vous allez sur Internet, sauf mention contraire, toutes les images sont la propriété de leurs auteurs. Considérez que les seules images que vous avez le droit d'utiliser, c'est celles qui sont protégées par une licence qui vous autorise explicitement à les modifier. Sinon, elles ne sont pas modifiables. Vous considérez qu'elles ne sont pas modifiables. Je pense que c'est le mieux pour être certain de ne pas faire des choses qui sont dans l'illégalité.
Je peux ajouter un complément. Oui. Pour le coup, les licences libres, enfin la paternité en droit européen est toujours à reconnaître. Donc on ne peut pas enlever, s'approprier une image et dire, même si elle est diffusée librement, et dire c'est moi qui l'ai réalisée, si ce n'est pas le cas. Non, non. Oui, mais c'est la licence, mais la paternité doit toujours être attribuée, même si on est dans le cadre de licence libre, pour le coup, comme celle dont on parlait.
Y a-t-il d'autres questions, sachant que vous pourrez quand même en poser tout à l'heure ? Oui.
Par rapport à l'actualité terroriste actuelle, le temps de traitement de l'image pour vérification de l'authenticité est de combien de temps en fait ?
Alors sur la vérification de l'authenticité, la vérification de la paternité c'est instantané, vous avez vu ça tout à l'heure. La vérification de l'authenticité va prendre un petit peu plus de temps. Il faut considérer pour une image, pour faire les 4 tests que je vous ai présentés, environ 10 minutes.
Merci.
Et pour la vidéosurveillance, ça peut fonctionner en temps réel.
Le fonctionnement, pour du public, en fait, l'enregistrement dans l'espace public, l'analyse des objets, des modes de fonctionnement. Et pour un privé, est-ce qu'il peut utiliser ce genre de technologie ou... Alors, est-ce qu'il y a une législation aussi là-dessus, en fait ? C'était ça ma question.
Ah, sur la vidéosurveillance, vous voulez dire ? Techniquement, vous avez le droit de filmer à l'intérieur de chez vous. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que vous filmez l'espace public, vous n'en avez pas l'autorisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de mettre une caméra de vidéosurveillance à l'extérieur de votre maison. Du moins, si à l'extérieur de votre maison, vous filmez une partie de l'espace public.
Voilà. Mais pour un restaurant, par exemple, un restaurant, il peut filmer et appliquer ce genre de choses ?
Il va falloir demander des autorisations.
D'accord, ok. Donc il faut quand même qu'il fasse une demande auprès d'un pouvoir public, préfecture ou autre, peu importe. D'accord. Okay. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser ces images-là
Mais de toute façon, même les pouvoirs publics n'ont pas le droit de les utiliser sans votre consentement express.
Et du coup, par rapport à l'état d'urgence, ça change des choses, ça ?
Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas regardé en détail le décret de l'état d'urgence. Je ne peux pas vous dire. Y a-t-il d'autres questions ?
Éventuellement, je m'interrogeais par rapport à la Coupe du Monde de rugby, dont on a parlé, on a beaucoup parlé de l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'éventuellement cet arbitrage ne serait pas aussi un objectif de comprendre le mouvement ou je sais pas.
Alors moi, j'ai travaillé sur l'analyse du mouvement sportif. au laboratoire, on a aussi analysé le mouvement, par exemple, des basketteurs dans le cadre du PB 86. Mais on travaille à ce moment-là sur des images spécifiques, pas des images d'arbitrage. Dans le cadre de l'arbitrage vidéo, l'arbitrage permet simplement à l'arbitre de revisionner l'action pour revoir les choses. Il n'y a pas encore de système automatique qui va donner une décision automatique. Heureusement. On va garder un petit peu d'humain quand même. Merci.
Bon, je vais prendre le relais. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, moi, d'intervenir sur un volet tout à fait complémentaire de celui de mon collègue, qui va porter sur quelque chose qui est, je dirais, indispensable dans ce qui a été dit, puisque de plus en plus, par exemple, des caméras peuvent être embarquées dans des systèmes quelconques et il faut acheminer l'acquisition des images faites par ces caméras. Donc, moi, mon propos, ça va être de s'intéresser à la partie sécurisation des communications sans fil. Et pour l'introduire de façon extrêmement générale, ce que je vous propose, c'est de passer quelques petites minutes sur, à mon avis, quelque chose qui va bouleverser notre vie et notre quotidien. C'est ce que l'on appelle l'Internet des objets, où on trouve aussi l'appellation objet connecté ou objet communicant. Ce qu'il faut retenir, j'ai mis quelques petites illustrations ici, c'est tout ce que l'on commence à voir apparaître. Vous avez dû entendre des dispositifs qui peuvent être utilisés dans le domaine du sport, par exemple des petits capteurs qu'on va, des bracelets connectés, des montres, vous avez pu voir l'Apple Watch qui sort en ce moment, des cardiofréquencemètres, des podomètres. Si vous avez une certaine activité physique, eh bien, on peut mesurer le nombre de pas faits par jour, la consommation d'énergie, etc. Mais aussi, vous avez pu sans doute entendre parler dans le domaine de l'énergie, des compteurs électriques communicants. Ce sont les fameux compteurs Linky qui vont être déployés, je dirais, dans les années qui viennent. Il y a quand même 35 millions de compteurs en France qui vont être changés, c'est-à-dire en gros tous nos compteurs. Et ces compteurs vont devenir communicants dans le sens où ils vont pouvoir être commandés à distance pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et notamment, une petite parenthèse, je pourrais y revenir un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents, et donc pouvoir assurer un certain nombre de fonctionnalités, j'y reviendrai. On entend aussi de plus en plus d'applications qui sont dans le domaine du maintien de personnes à domicile, suite à un accident, une maladie, parce qu'il s'agit de personnes âgées, peu importe, mais des dispositifs qui vont permettre de suivre un certain nombre de données physiologiques à distance, pratiquer des soins à distance, mais aussi, si on reste dans le domaine de la maison, c'est tout ce qui est de la domotique. La domotique, on entend parler depuis 15 ans. Maintenant, c'est en train de prendre une nouvelle dimension, en particulier avec l'arrivée des box qu'on a souvent à nos domiciles et qui vont devenir des systèmes de commande d'un certain nombre de dispositifs à l'intérieur de la maison. On parle aussi de concept de ville intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire, ces villes intelligentes? Si je les resitue dans le contexte de la transition énergétique, eh bien, on peut penser à des dispositifs qui vont faciliter le transport, la mobilité, en respectant des contraintes énergétiques, privilégier des transports propres, privilégier, je dirais globalement, des transports qui vont réduire l'empreinte carbone. Mais c'est aussi, là, pour faire le lien avec ce qu'a dit François Le Cellier juste avant, toute la question de la télésurveillance, de la sécurité dans les villes. Si je continue, dans le domaine de l'industrie au sens large, on voit apparaître une industrie qu'on appelle une industrie 2.0. Peu importe le 2.0, mais en tous les cas, c'est une industrie qui est de plus en plus automatisée, et qui, dans certains cas aussi, c'est le cas de fabrication de dispositifs, je dirais, conséquents. Je pense par exemple à des avions avec Airbus, où l'objectif va être de faire travailler ensemble, je dirais, des hommes et des robots, et pouvoir assurer une qualité de la tâche qui soit la plus importante possible. Vous imaginez, si on est dans la construction d'un avion et qu'il y a certains boulons qui sont mal serrés, ça peut par exemple avoir quelques conséquences. Donc il y a toute cette dimension qualité dans l'usine du futur. Et puis, je dirais de façon un petit peu plus globale, vous avez ici différents dispositifs. Le dénominateur commun de tout ça, c'est un ensemble de systèmes, de capteurs, d'actionneurs, bref, des objets, des systèmes qui vont être équipés d'une fonctionnalité de communication. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je dirais, les objets se chargeaient de faire la tâche qu'on leur avait assignée lors de la fabrication. Là, en plus, eh bien, ils vont récupérer des données, collecter des données, acheminer des données. C'est un état de fait. Voilà, je n'ai pas ici pour basculer sur l'autre volet de ce débat-là qui peut être l'utilisation de ces données, la confidentialité, etc., etc., qui est aussi une vraie problématique que l'on retrouve derrière implicitement ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des quantités de données qui sont massives dont on cherche à extraire des informations dites pertinentes. Vous voyez ce qu'on peut imaginer derrière pertinent. Donc je ne veux pas du tout qu'on rentre dans ce débat tout simplement parce qu'en plus je n'en ai pas la compétence. Par contre, je l'attaque sous l'angle du dénominateur commun à tous ces systèmes et la nécessité d'avoir ce transport des données qui doit se faire de façon fiable, sécurisée, adaptée. Et donc c'est par ce biais-là que je vous propose de rentrer dans l'exposé. Pour illustrer, j'ai récupéré cette image sous Google où on voit justement un exemple. Il y a plein d'études, énormément d'études sur cet Internet des objets. Mais on voit ici l'ampleur du phénomène. Vous avez sur l'axe horizontal donc l'évolution des années de 2004 à 2018. Et puis, vous avez ici, en vertical, le nombre de systèmes déployés exprimés en milliers. Et vous voyez qu'on atteint vite des millions sur cette échelle. Et vous avez les différents systèmes qui sont ici. À titre d'exemple, les smartphones, c'est ça. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez tous bien l'image. Les smartphones, c'est ça. Les tablettes, c'est ça. Et l'Internet des objets, c'est ça. Et vous voyez la croissance qui est extrêmement rapide et pour l'instant qu'on n'est pas trop capable de borner tout au moins une échelle. Alors il y a des enquêtes qui vont plus loin, mais à l'horizon 2020, on est toujours sur cette même croissance. Voilà. Et donc derrière, ça pose énormément de questions en termes de cheminement de ces données. Voilà. Donc ça, c'était pour vous sensibiliser à l'Internet des objets. Pourquoi on appelle ça l'Internet des objets ? Parce que finalement, tous ces objets-là vont se comporter comme des ordinateurs, c'est-à-dire auront une adresse qui permettra de les identifier. Et tout ça communiquera par un Internet. Et quand on parle aussi des fois de cloud, bien évidemment, toutes ces données seront stockées. On ne sait pas trop où d'ailleurs, mais en tous les cas, elles sont stockées et réutilisées ensuite. Pour vous montrer que derrière... ça concerne tout le monde et, je dirais, toutes les échelles. Là, je me suis permis de... Alors, le S est un petit peu coupé à la fin, mais ce n'est pas grave. Je me suis permis de rappeler les différentes manifestations qu'il y a eu dans l'année passée. La liste n'est pas exhaustive, mais en tous les cas, c'est celle auxquelles j'ai participé et qui implique justement cette problématique des objets connectés. Là, systématiquement... ce sont des manifestations, à destination du grand public, mais aussi à destination d'entreprises et de décideurs. On était vraiment sur l'Internet des objets au sens très large. Vous voyez les applications tout à fait multiples qui sont mentionnées là. Là, c'était des rencontres qui étaient des rencontres nationales qui étaient hébergées à Poitiers, cette fois-ci, sur le numérique au sens large du terme, mais il y avait une part importante qui était dédiée à l'Internet des objets. Vous voyez, c'était du novembre 2014. Celle-ci, c'était du mars 2015. Et puis, une rencontre aussi en mai 2014, où là, c'était l'utilisation, de ces objets connectés dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle la e-santé ou la télémédecine. Et donc ça, c'était vraiment dédié santé. Donc voilà, en guise d'introduction... Et maintenant, comme l'objectif, c'était de s'intéresser à la question de la sécurisation de ces transmissions, j'ai dressé une liste qui est non exhaustive d'éléments clés
qui vont permettre de contrôler un petit peu la façon dont ces données vont être transmises. Donc, en quoi mon exposé est complémentaire de celui de François Le Cellier ? Tout simplement parce que François s'intéressait aux données elles-mêmes. Moi, je ne m'intéresse pas aux données elles-mêmes, mais je vais m'intéresser à la façon de les transmettre. D'accord ? Les données sont ce qu'elles sont et on va essayer de les transmettre. Donc, bien évidemment, tout ça est directement complémentaire. On va passer en revue ces différents points et ensuite, tout simplement, ce que je vais vous proposer, c'est de présenter un certain nombre d'actions sur lesquelles on travaille et qui sont des projets que l'on déroule en général, soit vraiment en propre, soit en partenariat avec des entreprises. Premier élément qui me semble tout à fait indispensable, puisque j'ai positionné mon exposé sur la question du sans fil, eh bien, c'est d'être capable de définir la portée des systèmes. Vous imaginez parfaitement que, je prends un exemple qui a fait un petit peu d'ouïe à une certaine époque, dans les centrales nucléaires. Bien évidemment, dans les centrales nucléaires, il y a aussi des réseaux Wi-Fi, alors qu'ils sont un peu plus sécurisés, bien évidemment, que celui qu'on peut avoir chez soi. Mais néanmoins, imaginez que un récepteur Wi-Fi soit en périphérie de la centrale. La question, c'est est-ce que les données peuvent être récupérées ou pas par quelqu'un qui est en périphérie. D'accord ? Donc la question du contrôle de la portée des ondes qui finalement vont acheminer les informations est vraiment quelque chose de clé. De la même façon, le choix des fréquences est aussi quelque chose de clé. En effet, tous ces systèmes radio fonctionnent dans des bandes de fréquences qui vont être différentes. Et l'objectif, c'est d'être capable de faire les bons choix en fonction de contraintes en particulier liées à la portée. Ensuite, deuxième point, la question des environnements dans lesquels les données vont être acheminées. Ça peut être des environnements à l'intérieur de bâtiments, ça peut être à l'extérieur de bâtiments, ou ça peut être aussi au niveau du corps humain. Je vais vous présenter différentes applications autour de ça. Dans le cas d'applications à l'intérieur de bâtiments, on peut très bien imaginer de vouloir circonscrire le rayonnement, donc le fonctionnement d'un système, à l'échelle d'une pièce, ou d'un étage, ou d'un bâtiment uniquement. Et donc là, il faut être capable, encore une fois, de contrôler cette question de la portée, mais dans des environnements différents. À l'extérieur de bâtiments, c'est là aussi la même chose, sauf que derrière, la question qui est posée, c'est finalement, puisque ces informations sont transportées par les ondes, comment est-ce que les ondes se propagent de la même façon ou pas dans ces différents environnements, d'accord ? Et enfin, histoire de marquer un petit peu les esprits, on commence à maintenant avoir des dispositifs qui vont être, je dirais, à l'intérieur du corps et qui vont, en principe, nous améliorer notre fonctionnement dans le cas de maladies ou de dispositifs de ce type-là. Sachez qu'il existe déjà, par exemple, des systèmes de gélules qui sont prises et qui permettent de visualiser complètement ce qui se passe à l'intérieur du corps, au niveau du transit, par exemple. D'accord ? Et les données ne sont pas forcément collectées après l'examen, mais elles peuvent être collectées en temps réel, tout simplement en les captant au fil de la descente de la gélule. Mais ça, c'est le cas de capteurs, je dirais, ou de dispositifs implantés. Mais il y a énormément d'actions qui se passent et qui deviennent maintenant des actions tout à fait grand public où vous avez dû probablement entendre parler de vêtements connectés. Decathlon est par exemple, bon, je n'ai pas d'action chez Decathlon, mais est tout à fait bien positionné sur ces activités où à l'intérieur des fibres du tissu, eh bien, on va y mettre un certain nombre de capteurs pour récupérer des données, par exemple, je sais pas, la sueur, et en analyser les caractéristiques de la sueur pour voir est-ce que le métabolisme fonctionne bien, etc. Donc ça pose vraiment des questions importantes. Ensuite, la diversité des informations transmises. La notion de quantité d'informations transmises par seconde, ou par minute, ou par heure. Si on veut s'intéresser à la régulation de la température dans une pièce comme celle-ci, on comprend bien qu'on n'a pas besoin de prendre une mesure de température toutes les millisecondes. Peut-être que toutes les minutes, toutes les 10 minutes, ça suffira largement. Bon. Donc, on va avoir des informations qu'on va pouvoir transmettre, j'irais, de façon très lente, progressive. Si on perd une donnée, ma foi, ce n'est pas très dramatique. On attend la mesure suivante et on la renvoie et ça ira très bien. Dans d'autres cas, si je reprends l'illustration de François sur l'analyse de vidéos et en particulier de télésurveillance, eh bien, on voit que là, ça va être des grosses quantités de données à transmettre et à traiter. Et donc, la façon de les transmettre, on sent bien que ça ne va pas être la même chose. Voilà. Donc là, encore une fois, il faudra imaginer des systèmes qui vont permettre de sécuriser la transmission de façon différente en fonction de ces données. Autre paramètre qui est tout à fait important, c'est le caractère autonome des dispositifs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, on veut baisser le coût des dispositifs pour pouvoir faire des déploiements massifs. Mais évidemment, ces dispositifs, on veut aussi qu'ils soient sans maintenance. C'est-à-dire qu'en gros, on veut les acheter et puis on veut qu'ils fonctionnent jusqu'à leur fin de vie. Ce qui pose en particulier la question de l'autonomie énergétique de ces dispositifs. Un dispositif qui fonctionne, eh bien, il va consommer de l'électricité. Et donc, soit il est relié à une source d'électricité et tout va bien, soit au contraire, eh bien, il doit fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire avoir une batterie, une pile. Toute la question, c'est est-ce qu'elle est rechargeable ou pas. Si elle n'est pas rechargeable, une fois qu'on l'a consommée au maximum et qu'elle est vide, le dispositif s'arrête. Mais de plus en plus, on imagine des systèmes qui vont être à récupération d'énergie. Ça veut dire, par exemple, on va pouvoir recharger une batterie à partir d'énergie solaire ou à partir de mouvements, à partir de variations de température. Mais aussi, et ça c'est un concept tout à fait récent et je trouve très astucieux, c'est aussi de récupérer de l'énergie électromagnétique, puisque finalement on baigne de plus en plus dans un environnement qui est rempli d'ondes électromagnétiques. Si vous allumez votre smartphone, vous allez voir que vous avez un signal, et il y a du Wi-Fi, il y a tout ça. Eh bien, l'idée, c'est d'être capable finalement de récupérer tous ces rayonnements, y compris pour produire de l'énergie électrique, qui va permettre de faire fonctionner des systèmes. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui se reboucle. Et enfin, dans les aspects contraintes liées aux transmissions, eh bien, il y a un point très important qui rejoint un petit peu celui que j'ai évoqué juste au-dessus, c'est la question du délai de transmission. Si pour acheminer une donnée, il faut 30 secondes ou 3 minutes ou 1 heure ou 10 millisecondes, ça ne va pas être la même chose. Et on voit tout de suite qu'en fonction des applications, les contraintes vont être différentes. Je vais en donner une tout à l'heure, je vous l'introduis tout de suite. Il y a des systèmes maintenant que vous avez peut-être vu dans certains véhicules qui vont être des radars anti-collision. Ces radars anti-collision ne vont pas être basés sur un système classique tel qu'on peut l'avoir sur les voitures, je dirais, ordinaires, mais il va y avoir des systèmes d'échange d'informations entre véhicules qui vont décider eux-mêmes d'ici peu que, sous certaines conditions, de distance entre deux véhicules, de vitesse, de trajectoire, etc., eh bien, il y a un risque d'accident. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir un mécanisme automatique dans le véhicule qui se met en place pour ralentir le véhicule ou, au contraire, faire un freinage d'urgence. Comprenez que si vous êtes dans une logique de freinage d'urgence, il ne faut peut-être pas que le signal y mette 3 secondes pour arriver si on est à 3 mètres du véhicule. Donc derrière, ces questions de délai d'acheminement de la donnée vont vraiment être des contraintes très importantes. Et donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout ça de façon très concrète à partir d'exemples que l'on travaille actuellement au laboratoire dans différents domaines. Le premier que je vous propose, c'est le domaine de l'énergie. J'ai parlé tout à l'heure des changements de compteurs et ces compteurs Linky, les compteurs intelligents. On travaille dans ce domaine. Je vais citer cet exemple-là qui me semble particulièrement intéressant. C'est un poste haute tension, transformateur haute tension. Là, en l'occurrence, on travaille avec le Canada là-dessus, mais on a les mêmes problématiques en France. L'objectif est de pouvoir globalement toujours essayer de répondre à la demande de consommation d'électricité. Et comme vous le savez, l'électricité, on a quand même un petit peu de mal à la stocker. Et donc, il faut un équilibre continu entre la production d'énergie et puis la consommation d'énergie. La consommation, c'est nous et c'est les entreprises, je dirais, pour faire simple. Avant, il y a encore une dizaine d'années, c'était relativement simple parce que la production électrique en France était très, très, très largement du nucléaire. Et je dirais, le nucléaire est indépendant d'un certain nombre de conditions telles que les conditions qui paramètrent en gros le fonctionnement des énergies renouvelables. Donc là, on a une part croissante d'énergies renouvelables, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Et donc forcément, ça dépend du vent et ça dépend, si sur ces deux exemples-là, ça dépend de l'ensoleillement. Ce qui veut dire que la production d'électricité ne va donc pas être continue, stable en fonction du temps. Deuxième élément, cette électricité, elle n'est plus produite en un lieu particulier, mais elle va être distribuée sur le territoire. Vous voyez des champs de panneaux solaires ou des champs d'éoliennes qui apparaissent, qui fleurissent dans nos campagnes. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais en tous les cas, c'est une réalité. Ce qui veut dire qu'il va falloir être en mesure d'optimiser la production d'électricité, le rapatriement d'électricité, en fonction des besoins de consommation. Et vous savez tous que le pic d'électricité, en gros, il est autour de 19h en plein hiver. Dans certains cas, l'objectif de ces compteurs Linky, mais plus globalement, ce qu'on appelle des réseaux électriques intelligents, c'est d'être capable d'éviter que des régions entières se retrouvent sans électricité pendant plusieurs heures. Vous savez par exemple que la Bretagne est en situation difficile par rapport à ça, parce que justement il y a peu de nucléaire en Bretagne. Et donc derrière, eh bien, pour faire face à une grosse demande d'électricité, eh bien, tout simplement, ça tombe. Voilà. Donc là, pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut être capable d'agir sur la circulation d'électricité sur les réseaux de transport d'électricité. Et un des enjeux, c'est d'être capable, bien évidemment, de faire ça à distance, de faire de la télégestion des réseaux d'électricité, mais aussi de leur maintenance à distance, de leur pilotage à distance et du diagnostic à distance. Et donc tout ça, ça passe par des systèmes sans fil. Et en ce moment, l'enjeu est d'être capable de mettre des systèmes sans fil pour commander tout ça à distance. Et la difficulté qu'on rencontre, eh bien, c'est qu'un poste haute tension comme celui-ci, ça va être un milieu dans lequel il y a énormément de perturbations électromagnétiques parce que les phénomènes physiques qui sont derrière font que, par exemple, quand on va utiliser un disjoncteur pour ouvrir une ligne ou fermer une ligne, eh bien, ça crée plein de bruit. Et ça vient perturber les transmissions. Et donc, automatiquement, vous voyez tout de suite que si on veut passer à une gestion automatique de ces systèmes-là, ben, il s'agit que les transmissions soient sûres. Soient sûres autant en termes d'acheminement de la donnée, mais aussi en termes de temps d'acheminement de la donnée et de qualité de cette donnée-là. Donc voilà un exemple particulier. Un autre cas ici, où ça c'est une étude qu'on avait faite pour le Centre scientifique et technique du bâtiment, où l'objectif est de pouvoir placer un ensemble de capteurs dans un bâtiment pour faire ce qu'on appelle du diagnostic à long terme de bâtiment. Alors ça, pour les utilisateurs de grands bâtiments, c'est très important de connaître et d'essayer d'optimiser l'ambiance lumineuse pour que ce soit plus agréable, bien évidemment le chauffage, mais aussi être capable de mesurer l'ambiance sonore. Est-ce que les collaborateurs d'une entreprise travaillent relativement dans le calme ou pas, quel est le vieillissement des doubles vitrages, etc. Et donc derrière, c'est essayer de penser, de prévoir un système de collecte, de mesure de ces données et de collecte de ces données en vue ensuite de leur traitement. Là, encore une fois, on comprend bien que certaines données vont être, sans conséquence si elles sont perdues. D'autres peuvent être franchement beaucoup plus problématiques. Autre exemple dans le domaine de la santé. Là, ce que j'illustre ici, ce sont des travaux que l'on réalise sur des capteurs qui vont être posés sur le corps ou éventuellement dans le corps. Et la question qui est posée là, bien évidemment, c'est en fonction de la donnée collectée, est-ce qu'on peut se permettre d'en perdre quelques-unes ou au contraire, est-ce que toutes les données sont critiques? Et donc là, on tombe encore une fois sur la question de la sécurisation des transmissions, y compris en termes de santé, où là, l'exemple que l'on donne, c'est un capteur qui est au niveau du cœur, c'est pour dire un suivi cardiaque, et une sorte de montre-bracelet ici qui va permettre d'indiquer à la personne si son activité physique est satisfaisante par rapport à son problème cardiaque. Donc là, on est clairement dans une problématique d'éducation thérapeutique ou bien de suivi post-opératoire. Et j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir connu ça, mais en tous les cas, les médecins qui sont dans ce secteur-là nous rapportent que les principales difficultés des patients qui ont été par exemple opérés, on leur dit d'avoir une activité physique, mais jusqu'où peuvent-ils la pratiquer sans avoir de problème dans le contexte suivi post-opératoire. Donc là, c'est un dispositif qui permet en gros d'avoir une échelle de couleurs vert-orange-rouge, où ça permet de dire au patient lui-même, en fonction de son activité quotidienne, est-ce qu'il à une activité physique satisfaisante ou pas par rapport à sa pathologie. Et donc là, la question, c'est bien évidemment, si ce dispositif, il n'est pas à la surface du corps, mais il a été intégré dans le corps lors de l'intervention, eh bien, il ne s'agit pas de que ce dispositif rayonne de trop au sens électromagnétique du terme, parce que dans ce cas-là, d'une part, il peut y avoir des phénomènes de perturbation autour, et puis peut-être que d'un point de vue santé, c'est peut-être pas extraordinaire non plus. D'accord ? Donc on est sur toutes ces questions d'équilibre. Et donc là, ça suppose à la fois de bien connaître les phénomènes, la façon dont les ondes vont se propager, ça suppose être capable de concevoir des dispositifs électroniques qui vont être embarqués à l'intérieur du corps ou sur le corps. Et puis derrière, ça suppose aussi éventuellement d'être capable d'avoir des systèmes de traitement des données embarqué dans le capteur de façon à pouvoir acheminer que ce qui est pertinent et ne pas acheminer ce qui ne l'est pas, ce qui va permettre d'optimiser les systèmes. Champ d'application toujours dans le domaine du médical, une alternative au système classique radioélectrique avec tous les problèmes de perturbation et d'influence sur la santé que ça pourrait éventuellement avoir, eh bien là c'est un travail que l'on fait en partenariat avec un CHU où l'idée c'est on est dans du suivi post-opératoire, le patient est dans sa chambre et monitoré avec un certain nombre de dispositifs. Vous avez pu constater que quand on arrive dans un hôpital, on nous demande d'éteindre notre téléphone, tout simplement parce que le rayonnement du téléphone peut perturber des instruments de mesure et notamment d'imagerie. Et bien là, l'idée, c'est de remplacer justement des systèmes radio par des systèmes optiques sans fil, c'est-à-dire en gros de l'infrarouge, pour faire simple. Et il faut que vous sachiez qu'il y a des dispositifs qui se développent en ce moment de façon tout à fait considérable, où une lampe comme celle-ci ne va pas se contenter seulement de nous éclairer, mais va être aussi un relais pour collecter des données. D'accord ? Et donc là, il existe donc des solutions qui vont permettre de transporter de la donnée avec une solution d'onde qui va être optique. Et là, encore une fois, toujours la même problématique. Comment est-ce que je fais pour contrôler la portée ? Comment est-ce que je fais pour définir l'autonomie du dispositif au sens électricité ? Et voyez, par exemple, que ce système que je présente dans un contexte de médical, eh bien, il est tout à fait pertinent pour limiter le rayonnement à l'intérieur d'une pièce, tout simplement parce que vous savez comme moi que la lumière ne va pas sortir de la pièce si les portes sont fermées. Et donc là, en termes de confidentialité de la donnée, c'est tout à fait intéressant parce qu'on est sûr de bloquer les informations qui sont transmises à l'intérieur de cette pièce, si toutefois cette pièce est fermée, bien évidemment. Voilà. Donc vous voyez que là, j'essaie aussi d'introduire une idée qui consiste à dire on peut penser une technologie pour une application particulière, mais finalement, on peut la décliner dans d'autres contextes parce qu'elle va présenter des propriétés intéressantes. Enfin, j'illustre très rapidement une idée que j'ai déjà introduite, mais un petit peu sous un angle différent. Là, c'est sur des systèmes domotiques d'aide au maintien de personnes à domicile, où encore une fois, ça va être là, cette fois-ci, de faire en sorte de faciliter la vie de personnes, à mobilité réduite au sens large du terme, ou présentant, un handicap, qui soit d'ailleurs physique ou mental, et pouvoir le maintenir à domicile dans des conditions tout à fait intéressantes. Je change complètement de champ d'application pour m'intéresser au domaine des transports. J'en ai glissé un tout petit mot tout à l'heure. Ce que je veux introduire ici, c'est l'idée que, j'irai demain, mais c'est presque effectivement demain, voire aujourd'hui, tous les véhicules neufs seront équipés d'une fonctionnalité de communication. Cette fonctionnalité de communication, elle pourra être utilisée pour des raisons de sécurité, comme je le disais, c'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes sur une autoroute, il y a un convoi de véhicules, et ce convoi de véhicules, il y a un flot de véhicules plutôt qui roule en convoi, et l'idée, c'est de réduire les risques d'accident et de carambolage. Donc là, il doit y avoir des véhicules qui échangent des informations entre eux, de façon à éviter cet effet carambolage. Mais il y a d'autres applications aussi, où de plus en plus, on va avoir globalement des véhicules qui vont échanger des données entre eux. Ce que j'illustre ici, c'est là, vous avez une vue de dessus d'une zone où tout ce qui est rouge représente des bâtiments. D'accord ? C'est une vue de dessus. Et tous les petits points qui se déplacent là sur des trajectoires blanches, eh bien, ça représente potentiellement des véhicules ou des piétons qui se déplacent. Et la problématique, c'est de dire il y a dans certaines applications la nécessité d'acheminer des données alors entre ce point qui est ici et puis un point qui est un petit peu plus loin, en bas de l'image. Et ces deux, voilà, c'est le point 0 là, et le point, je ne sais plus, 27. Et ces deux entités ont besoin d'échanger des données. Elles ne peuvent pas le faire en direct. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles seraient obligées d'émettre des ondes avec une puissance très importante. Et donc, derrière, ça pourrait venir perturber tout un tas de systèmes et contribuer, je dirais, à la pollution électromagnétique ambiante dans laquelle on vit. Donc là, l'idée, c'est donc de subdiviser, finalement, l'acheminement de la donnée en passant par des véhicules intermédiaires qui vont transporter ça. Et donc, ça, c'est pour illustrer la difficulté qui se cache derrière, tout simplement parce que, en fonction de la donnée échangée, eh bien, on peut très bien imaginer que certains des relais intermédiaires soient malveillants, capturent de la donnée et se l'approprient. De façon plus large, sans être sur la notion de véhicule, mais je suppose que vous avez noté que les box que l'on a chez nous, au moment où on en achète une, on nous demande est-ce que cette box-là, vous acceptez de la partager avec d'autres ou pas. Vous avez pu remarquer que quand vous êtes dans une ville et que vous êtes, je ne sais pas si c'est un opérateur SFR, Orange ou Bouygues, peu importe, eh bien, quand vous arrivez dans une ville, vous pouvez vous raccrocher à des Wi-Fi de cet opérateur-là. Ça veut dire qu'à un moment, vous acceptez de partager votre source. Et donc, bien évidemment, quand tout le monde est tout à fait bienveillant, tout va bien. Quand il y a des éléments malveillants qui se déplacent là-dedans, ça pose des vrais problèmes de sécurisation et de sécurité des données, au sens où je l'entends et au sens où mon collègue l'entendait aussi. Donc ça, c'est un point qui est particulier. Un petit point sur la vidéosurveillance. Là, j'illustre sur ce qui est ici une situation qui est tout à fait réaliste où vous avez là, ça peut être un véhicule qui va être équipé d'une caméra qui se déplace sur cette trajectoire. Tout ce qui est en rouge, c'est encore des bâtiments, comme tout à l'heure. Okay ? Et ici, vous avez ce point-là qui va être le lieu de collecte des données. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée d'une caméra sans fil qui est embarquée dans un véhicule ou qui peut très bien être portée par un opérateur, peu importe. Alors, voilà. Ça devrait repartir. Là, ce que je montre, c'est la difficulté d'acheminer les images acquises par la caméra jusqu'ici. Dans ce que présente mon collègue François Le Cellier, il fait l'hypothèse que tout se passe très bien et que les données vidéo arrivent avec une parfaite qualité au niveau du récepteur. Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait si simple que ça, puisque ces images elles sont transportées par des ondes et que ces ondes, eh bien, elles peuvent subir un certain nombre de perturbations et donc, finalement, que les informations qui vont être transportées par ces ondes soient dégradées. Vous voyez ici deux illustrations de qualité de vidéo obtenues avec des techniques de transmission différentes. Et vous pouvez voir que dans certains cas, eh bien, on va avoir des problèmes de désynchronisation ou de perturbation. Pourquoi ça ? Je l'illustre ici. Vous avez ici un petit point rouge qui se balade là. Et ce point rouge, désolé, la vidéo ne reboucle pas. Ce point rouge, il correspond au point bleu qui est ici. Et vous pouvez remarquer qu'entre le point noir là et le point bleu, eh bien, dans certains cas, ils se voient directement. Dans d'autres cas, ils vont être cachés par des bâtiments. D'accord ? Eh bien là, ce que l'on observe, c'est la puissance reçue. D'accord ? Par le récepteur en fonction du déplacement de la caméra. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette puissance reçue, elle fluctue de façon tout à fait considérable. Et on comprend très bien que plus la puissance reçue va être importante, plus la qualité du signal va être bonne et plus la qualité de la vidéo sera bonne. Donc ça, c'est le cas où tout se passe bien. Par contre, dans des cas compliqués comme ça, eh bien, il va falloir développer des techniques particulières pour être capable de garantir une certaine qualité de la transmission et en particulier sécuriser la qualité de la transmission en fonction de l'application qui va être réalisée. Voilà, donc on est encore sur cette même problématique. Donc là, au sens de, du contrôle de la portée, mais aussi au contrôle de la quantité de données à transmettre, et enfin, toutes les contraintes que j'ai introduites au début. Donc là, j'ai parlé des projets, et pour finir, je vais essayer de vous montrer ce qui se cache un petit peu derrière en termes d'approche et de méthode. Donc je ne vais pas tout décrire, bien évidemment. Mais derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on a un ensemble, j'irais, d'entités qui se déplacent et qui échangent des données. Et ça, finalement, ça peut être vu comme un réseau. Au sens d'un réseau informatique que l'on peut connaître ou à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, où tous les PC vont être reliés avec un câble au réseau de l'entreprise, eh bien là, tout se passe par voie finalement radio, par voie sans fil, et on se retrouve à avoir un ensemble d'éléments comme ça qui vont chercher à échanger des données à l'intérieur d'un réseau qui a comme propriété de pouvoir évoluer complètement en fonction du temps, comme je le décrivais avant dans le cadre des véhicules. Je vais passer tout de suite à ça. Dans tous les cas de figure, l'information est transportée par une onde. Et est-ce qu'on peut contrôler la façon dont une onde se propage à l'intérieur d'un environnement ? La réponse est non. D'accord ? Donc, on ne va pas casser un bâtiment pour assurer une meilleure qualité de transmission ou pour éviter tel ou tel phénomène. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le problème autrement. Il faut essayer de comprendre au mieux la façon dont les ondes vont se propager dans un environnement donné et puis intégrer ces informations-là de façon à pouvoir en tenir compte. On est dans un mode un petit peu supervisé, comme c'est évoqué dans la présentation précédente. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que là, vous avez une illustration de ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment. Donc là, vous imaginez des pièces qui sont ici, puis une espèce de grande pièce qui est là. Et on va avoir, on est dans une configuration exactement comme dans un Wi-Fi. On va avoir un émetteur, la box qu'on a chez soi, et puis on va avoir son PC, on va avoir sa télé, on va avoir sa tablette ou je ne sais pas quoi, qui va constituer le récepteur. Et en fait, entre la box qui est à un endroit de votre maison et puis votre PC qui va être relié en Wi-Fi, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les ondes qui se propagent ne vont pas suivre seulement un seul chemin, mais en fait, elles vont interagir avec l'environnement. Et elles vont interagir avec les murs, avec votre mobilier, etc. Et ça a pour effet de créer plein de chemins possibles pour l'onde, pour acheminer votre donnée. Et ça, eh bien, c'est ce qui pose problème et c'est ce qu'il faut connaître au mieux. Et c'est pour ça que je disais que les situations vont être complètement différentes en fonction des environnements, si c'est à l'intérieur d'un bâtiment ou si c'est à l'extérieur d'un bâtiment. Et là, je vous donne un exemple ici. C'est un travail qu'on a fait pendant plusieurs années pour Alstom, pour le développement de métro, nouveau métro à Barcelone, nouveau métro à Shanghai, etc. Où, si vous remarquez ce qui se passe, c'est que maintenant, les tunnels des métros sont extrêmement étroits par rapport aux rames de métro qui circulent dedans. C'est-à-dire que finalement, il y a très, très peu de place autour, je dirais, du métro par rapport au tunnel. Et parallèlement, donc on comprend pourquoi, hein, facilité pour creuser les tunnels, etc. etc. Et parallèlement, quand vous prenez le métro maintenant, ben vous appréciez d'avoir une connexion Wi-Fi ou de la 2G ou de la 3G, c'est-à-dire pouvoir utiliser votre smartphone dedans. Surtout pour des gens qui vont passer une heure ou une heure et demie de temps de transport, donc maintenant il y a des services de ce type-là à proposer. Mais je dirais pire que ça, l'objectif c'est de pouvoir faire du contrôle et de la commande de ces rames de métro en sans fil. Pourquoi ? Parce que ça réduit les coûts de déploiement de façon tout à fait extraordinaire. Et donc là, on est confronté à acheminer de la donnée, y compris de contrôle-commande de rames de métro, par voie radio, dans des environnements extrêmement compliqués comme ça, qui ne sont pas du tout prévus pour acheminer finalement ce genre d'informations. Donc là, on fait des travaux autour de ça pour vraiment essayer de comprendre la façon dont les ondes se propagent et derrière être capable de prévoir des systèmes de transmission, des protocoles de transmission qui vont être adaptés et sécurisés, d'autant plus que ça va être des données de contrôle de commande, par exemple pour une rame de métro. Autre point aussi que je voulais juste illustrer, c'est que pour faire ça, eh bien, il faut être capable de développer des outils logiciels, des outils de simulation qui vont permettre d'aborder toutes ces questions-là et aussi être en mesure de faire beaucoup d'expérimentations pour valider vraiment des dispositifs qui pourraient être imaginés par des équations ou par des modèles mathématiques. Et donc ça, ce travail-là est extrêmement important de façon à pouvoir, valider les actions et automatiquement correspondre au mieux, finalement, au cahier des charges de l'application visée. Voilà. Et enfin, je terminerai par un point qui me semble tout à fait important. J'ai pas mal parlé de santé. C'est bien beau de parler de technologie. Je parlais de capteurs embarqués, je parlais de vêtements communicants, etc., etc. Mais, et de maintien de personnes à domicile. Mais il ne faut jamais oublier la question de l'usage et de l'acceptabilité de ces nouvelles technologies. Être bardé de capteurs pour nous garantir qu'on est bien suivi, etc., etc. Certes, ça peut avoir des côtés tout à fait positifs, mais certes, ça peut aussi avoir des côtés tout à fait négatifs. Voilà. Et donc, on ne coupe pas à une réflexion de fond qui mêle à la fois les aspects technologiques et les aspects, acceptabilité, usage, tout simplement par les citoyens de ces nouvelles technologies. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
C'est bon.
Le schéma que vous avez montré avec les voitures,
oui.
Les téléphones, en fait, c'est l'idée du réseau, là, c'est important.
Oui.
Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, mais du coup, comment ça se fait comment est-ce que, par exemple, un téléphone qui va servir de réseau va avoir l'autorisation d'avoir la donnée? Dans quelle mesure est-ce qu'il peut la garder? Ça pose vachement pas beaucoup de problèmes.
Oui. Absolument. Alors, il y a déjà des prototypes qui fonctionnent autour de tous ces systèmes-là. Ça veut dire qu'il faut que tout dispositif qui intervient dans le réseau soit identifié. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça que dans mon introduction, je parlais d'Internet des objets. Et quand on dit Internet, on dit adresse. C'est-à-dire que chaque machine est connue explicitement. Donc ça permet comme ça de connaître chaque élément du réseau. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la confiance que vous évoquiez. À partir du moment où on va avoir des données qu'on peut considérer comme personnelles ou sensibles, il faut être en mesure de garantir la confidentialité de ces données à travers le cheminement de la donnée, à travers plusieurs relais. Là, c'est toute la question de ce qu'on appelle la cryptographie, où globalement, chaque utilisateur va avoir une clé qui lui est propre, et cette clé ne pourra, pour simplifier, cette clé ne sera connue que des personnes à qui il donne sa confiance. Ça veut dire que des nœuds qui seraient uniquement des relais, c'est-à-dire qui n'ont pas vocation à comprendre la donnée, ne bénéficient pas de cette clé-là. Et donc, il la voit passer sans être en mesure de la comprendre et de la récupérer physiquement. Alors, derrière, ça pose une... C'est ça. Alors, ça pose des vraies questions auxquelles on va être confrontés tous. Imaginez que tous nos smartphones qu'on a dans notre poche soient utilisés à notre insu. OK ? Première question. Ensuite, deuxième question. Nos smartphones, on paye des abonnements. OK ? Transporter des données que l'on n'a pas souhaitées. Donc derrière, on pourrait très bien imaginer que les personnes qui mettent à disposition d'un groupe leur système aient un abonnement moins cher. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses, y compris des modèles économiques. Voilà. Donc, toutes ces questions-là sont en réflexion à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau technologique, au niveau concevoir les dispositifs, au niveau protection des données, au niveau modèle économique, et puis au niveau, je dirais, au sens, encore une fois, acceptabilité de tout ça, quoi. Je prenais l'exemple du véhicule. J'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, sur la question du véhicule autonome. Et en fait, moi, je suis arrivé dans cette réflexion-là en disant je conduis tout le temps et de temps en temps, je passe la commande de ma voiture à un robot, disons comme ça, ou un ordinateur. Bon, c'est quelque part un peu le principe du régulateur de vitesse actuellement. En discutant avec des personnes, y compris des sociologues, qui sur cette question-là, ils se posent le problème complètement à l'envers. Ils disent, dans le futur, vous serez conduit tout le temps par votre véhicule, et de temps en temps, vous reprendrez la main. Ça change complètement les choses. Ça veut dire que finalement, on est complètement passif dans son véhicule, on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment comme si c'était un moyen de transport, je dirais, collectif, au sens où on est transporté, et de temps en temps, on reprend la main. Alors, soit c'est volontaire, parce qu'on se dit, bah, tiens, on a envie de conduire, on appuie sur un bouton et on reprend la main, soit au contraire, là, ça pose une vraie question, c'est tous les films d'anticipation qu'on peut voir, c'est à partir du moment où y a une situation critique, qui la gère ? Est-ce qu'on laisse la gestion jusqu'au bout, en gros à l'ordinateur, ou est-ce qu'à un moment on reprend la main ? Mais on comprend bien que si on est dans un virage à 90 degrés, qu'on est à 90 et que la route est mouillée, qu'il fait nuit, etc., et que l'ordinateur dit je ne sais pas quoi faire, c'est pas à ce moment-là, alors qu'on est en train de lire son journal, qu'il va nous repasser le volant. D'accord ? Donc toutes ces questions-là sont très importantes. Et derrière aussi, autour de cette question, encore une fois, mais on rejoint un peu, je dirais, le côté intelligence artificielle, etc., c'est les algorithmes qui sont développés dans ces ordinateurs pour gérer les situations difficiles. C'est-à-dire que finalement, en ce moment, il y a des ingénieurs qui font des programmes. Ces programmes-là seront embarqués un jour dans des véhicules et qui permettront aux véhicules de façon autonome, de prendre des décisions en situation de crise. D'accord ? Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des amateurs de science-fiction, mais vous pouvez imaginer un certain nombre de films que vous pouvez regarder pour voir comment ça peut se passer. Bref, il y a des questions tout à fait importantes qui se posent en ce moment sur tout ça. Voilà.
Je vais rebondir. Est-ce qu'en termes de responsabilité, pour le coup, parce que ce que vous venez de dire, là, en gros, ça veut dire que les algorithmes vont décider de... pas directement forcément,
de notre vie. Mais,
ou de la vie d'autres personnes.
Absolument.
Pour le coup, parce que en gros le dilemme, ça peut être est-ce qu'il vaut mieux que je ramasse le piéton ou je tue mon conducteur.
C'est ça, c'est exactement cette question-là. Voilà. J'avais posé le dire, mais c'est ça.
Voilà. Bon, oui. Et alors, je rebondis sur une actualité récente, celle de Volkswagen. Pour le coup, on a des algorithmes menteurs là, ou des fraudes. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, puis ça rejoint ce qu'on vient de dire, d'auditer en fait les programmes, les algorithmes, pour justement savoir ce qu'ils font réellement.
Alors,
moi, la comparaison que j'aurais, c'est peut-être les livres de compte, c'est-à-dire que au 19e peut-être ou avant, je m'imagine que chacun faisait un petit peu ce qu'il faisait avec ses livres de compte. Et aujourd'hui, il y a des commissaires aux comptes, il y a des gens qui certifient, etc. Et donc, le truc, c'est d'être clair avec ce que font les algorithmes.
Mais si on reprend l'exemple de Volkswagen, je vous rappelle que les véhicules Volkswagen ont passé les tests.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'algorithme lui-même, par contre, mais on regarde le comportement final de l'objet qui est piloté, en l'occurrence la voiture. Et donc, il y avait des tests de pollution qui allaient bien, etc. etc. Oui, après, c'est tout le côté, gérer un algorithme, et il fait ce qu'on lui demande de faire, quoi. Voilà, donc, en tous les cas, pour revenir sur la question aussi de l'assurance qui est derrière, pour l'instant, les véhicules autonomes ne se développent pas, non pas par un frein technologique, mais en cas d'accident, qui est responsable ? Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'assureurs qui se sont engagés sur ce marché-là.
Et donc, en fait, du point de vue du public, je pense qu'il y a une grosse incertitude. Et puis, il y a des choses qui n'en rajoutent pas, enfin, qui en rajoutent. Donc, je pense à l'histoire de la NSA et de tout ce qu'on a appris avec l'affaire Snowden. Moi, je suis porteur d'un défibrillateur. Oui. Et donc, la portée, normalement, de l'antenne du défibrillateur, c'est 1 cm.
Oui.
Donc, et il y a un Australien qui avait montré qu'on pouvait pirater les défibrillateurs ou les pacemakers. Oui. Donc j'interroge le cardiologue, je lui dis, c'est le bordel. Il dit oui, mais le tien, il fait un centimètre. Donc ça veut dire qu'il faudrait quand même mettre l'antenne ici. Oui. Mais si je lis les documents Snowden, il nous montre que la NSA dispose d'antennes qui amplifient les choses par 100 ou par machin. Donc la portée, elle ne devient plus un centimètre, mais 10 mètres ou peut-être 100 mètres. Oui. Sur des matériels qui apparemment existent, à moins de considérer que Snowden ait propagé des faux. Mais, donc il dit, dans le matériel disponible par la NSA au jour d'aujourd'hui, il y a des antennes qui captent à 100 mètres alors qu'on s'attendait à 1 mètre. Quoi. Voilà.
Absolument.
Donc ça interroge.
Je confirme.
Voilà. Bon, mais oui, oui.
Bien sûr. Il y a tout un... sur cet exemple précis, il y a deux avancées majeures, deux éléments majeurs avec des avancées. C'est un, tout ce qu'on peut faire en termes d'antennes, c'est-à-dire travailler sur des antennes qui vont avoir une capacité à mieux capter les signaux, donc des signaux de plus faible intensité, être capable de les amplifier quelque part. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le traitement du signal, c'est-à-dire que finalement, on va être capable d'extraire des signaux d'extrêmement faible amplitude au milieu d'une espèce de bruit. Voilà. Donc en travaillant sur ces deux dimensions-là et bien sûr sur la miniaturisation de tout ça, on peut faire des choses nouvelles, positives ou moins positives.
Je sais pas, on est pas
libre. Oui.
Donc par rapport au risque de sécurisation qui, effectivement, a priori, tout est piratable, je pense qu'en médecine notamment ou par ailleurs... Sur la route par rapport à la COP21, etc., c'est nécessaire un certain temps, mais qu'après, il faut faire confiance, il faut faire comme l'objectif d'Internet à la base, c'est qu'il n'y ait pas un point central qui soit vulnérable. Il faut diffuser et faire confiance au bon sens humain.
On est d'accord. Sans tomber pour autant dans la naïveté. C'est-à-dire, c'est un équilibre à trouver entre... confiance et prudence. Mais ça, c'est la vie en général, ça. Ouais.
Attends, on enregistre tout, si tu veux.
Juste pour rebondir sur... du coup, c'est un peu trop fort, peut-être, non? Les signaux comme ça qu'on utilise et inclure un signal finalement qui n'a pas de clé dans une boucle, c'est déjà possible ça? C'est-à-dire utiliser le smartphone de quelqu'un comme un relais ou autre chose, une tablette à l'insu de quelqu'un comme un relais. Qu'est-ce qui existe comme mesure de... Alors on a les antivirus, des choses comme ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on peut bloquer un...
Je pense que...
Ou est-ce que c'est possible déjà?
Alors, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste du tout de ça. Donc ça, c'est vraiment... Je mets ça en préambule. Il y a des collègues qui seraient beaucoup plus pointus que moi sur cette question-là. Mais je pense qu'il me semble assez représentatif, c'est ce que l'on fait tout simplement quand on veut connecter, notre PC à notre box chez soi. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, on met une clé qui va avoir, une quinzaine ou une vingtaine ou une trentaine de caractères. Mais ceci dit, il suffit de passer en revue toutes les combinaisons de caractères possibles et on arrivera toujours à trouver la clé. D'accord ? Donc ça veut dire que, et ça c'est tout l'enjeu, de la cryptographie au sens très large du terme, c'est comme le brouillage et l'antibrouillage, quoi. À toute solution, il y a une contre-solution. Et donc c'est la même chose pour les virus et les antivirus. Voilà. Donc ça, c'est une course perpétuelle à trouver la solution et la parade à la solution trouvée. Voilà. Moi, naïvement, j'aurais envie de dire que tout système est piratable. Voilà. Peut-être pas au moment où le système de protection sort, mais quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard, à un moment, ça peut évidemment être levé. Voilà. Mais ça, j'insiste, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là.
Ok.
C'était sur l'analyse des images. En fait, là, on voit bien qu'il y a l'ordinateur, mais il y a toute la partie sociologique, finalement, de proposer une analyse comportementale, etc. Comment est-ce que ça peut s'articuler, ça entre les deux, finalement, entre toute l'analyse du comportement et puis la mise en musique sur la partie image-analyse.
Alors, comme je le disais, on va calculer des équations mathématiques et ensuite, on va donner des connaissances à l'ordinateur. Moi, je sais donner les connaissances à l'ordinateur, je ne sais pas forcément d'où elles viennent. D'où viennent les connaissances, ça va être à ce moment-là un sociologue, un comportementaliste qui va me les expliquer pour que je puisse les formater dans le bon format pour l'ordinateur. J'ai travaillé aussi en imagerie médicale. Me demandez pas de diagnostiquer une pathologie cardiaque. Je ne saurais pas le faire. Par contre, trouver les contours du cœur sur une image d'échographie, ça, je sais le faire et je peux l'apprendre à l'ordinateur. Donc, nous, ce qu'on sait faire, c'est faire la transition entre le langage d'un expert dans un domaine qui va nous expliquer comment il fonctionne et le langage expert informatique où là, on va donner des connaissances à l'ordinateur. Donc, c'est vraiment cette transition-là qu'il faut réussir à savoir faire. Et donc, ben, comme vous le disiez, voilà, il faudra un comportementaliste. Moi, je ne pourrais pas le faire.
OK. Merci. On va arrêter là. Donc, merci donc à François Le Cellier et à Rodolphe Ozel donc du laboratoire Exlim de l'Université de Poitiers et du CNRS. Donc, on continue, après cette première demi-journée, on continue demain matin avec un atelier Open Bash Passport animé par Serge Ravet qui est passé tout à l'heure. Il y a encore des places. Hein, c'est un atelier, c'est tout à fait ouvert. Demain après-midi, une après-midi importante autour de l'ouverture des données publiques et de manière très pratique sur la politique menée à Poitiers, à Grand Poitiers plutôt, sur cette question-là. Jeudi matin, une journée d'études, mais là aussi c'est ouvert, il faut bien donner un nom, mais une série de conférences, notamment avec Pascal Plantard, dont vous pouvez retrouver une interview dans le dernier 7 à Poitiers là, d'aujourd'hui, qui vient de l'Université de Rennes et d'autres intervenants autour de la mise en données du monde, donc avec un œil plus sociologique pour le coup, dans le champ de l'éducation, etc. Des ateliers au Grand Poitiers Open Data aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, et vendredi matin une session autour de la médiation numérique, donc de ce qui se fait aussi à Poitiers, et l'après-midi autour de la créativité dans les territoires et un certain nombre de projections et de débats aussi ce week-end, donc prenez le programme. Donc merci.